Merci d'écouter RFI Midi en temps universel. Il est 13h ici à Paris.
RFI Midi.
C'est l'heure du journal. Bonjour Olivier Sherman.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. Un puissant tremblement de terre de magnitude 7,7 a frappé tôt ce matin le centre de la Birmanie. Un séisme dont les secousses ont été ressenties jusqu'en Chine et en Thaïlande. De nombreuses victimes sont à déplorer, notamment à Naypyidaw, la capitale birmane. La junte birmane déclare l'état d'urgence dans 6 régions du pays et appelle à l'aide internationale. Vous entendrez un témoignage poignant dans ce journal d'un habitant de Bangkok où l'état d'urgence a aussi été décrété, nous dira notre correspondant en Thaïlande, Valentin Sébron. De nouvelles déclarations de Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin propose une Ukraine transitoirement dirigée par l'ONU et de futures élections présidentielles avant toute négociation de paix. On retrouvera à Moscou Anissa El-Jabri. Le bras droit d'Emmanuel Macron quitte l'Elysée après 10 ans passés aux côtés du président. Alexis Kohler démissionne de ses fonctions. Enfin, on terminera ce journal avec une pièce de théâtre palestinienne qui va se produire en France dès ce soir. 2 artistes, une danseuse et une musicienne qui décrivent comment vivre en temps de guerre avec la peur et les traumatismes.
Un puissant tremblement de terre a donc frappé la Birmanie et la Thaïlande.
Le séisme de magnitude 7,7 peu profond s'est produit à 16 km au nord-ouest de la ville birmane de Sagang tôt ce matin. Il a été suivi par une réplique de magnitude 6,4 quelques minutes plus tard. La Birmanie a été, semble-t-il, le pays le plus touché par le séisme. La junte militaire au pouvoir a lancé très rapidement un rare appel à l'aide internationale après la catastrophe. Et le fait que le pouvoir en appelle à l'étranger fait craindre un désastre de grande ampleur. Le principal hôpital de la capitale birmane, Naypyidaw, est complètement débordé. Il annonce 20 morts, il y a des centaines de blessés qui affluent et cet hôpital a lui-même été très endommagé par le tremblement de terre. La junte a donc décrété l'état d'urgence dans 6 régions du pays. Dans le pays voisin, la Thaïlande, la secousse a été fortement ressentie, notamment par ceux qui se trouvaient dans les grands immeubles de la capitale Bangkok. C'est le cas de Laurent, un Français expatrié depuis 10 ans en Thaïlande.
Mon condo, je suis au 19e étage. On a entendu un boucan, on n'a pas compris ce que c'était, un bruit pas possible, ça tombait dans les murs en fait. Et là, on entend, là, ça craque de partout. Là, on se regarde, on fait tremblement de terre, on a compris tout de suite. Les murs bougeaient, on était à 4 pattes par terre, on n'avait même plus à tenir debout. Mais on sentait vraiment que ça tanguait à droite à gauche. Hein. C'était vraiment, vraiment, vraiment flippant. Puis la fenêtre commençait un peu à tomber, les murs qui se fissuraient. Impossible de marcher tellement ça tanguait. Donc on a juste attendu en se tenant la main avec ma copine. On s'est dit, ben franchement, pendant une minute, on s'est dit c'est tout, on attend, puis si c'est la fin, c'est la fin. Hein. Ben, toute la ville est dans la rue, encore maintenant. Tout le monde reste dehors. De toute façon, les ascenseurs ne marchent plus. Et puis les gens du condo disent de pas monter, clairement. Enfin, les immeubles, en gros, sont bouclés, quoi. On espère pouvoir rentrer ce soir dans notre appart, mais le truc, c'est que des bouts de plâtre qui tombent, je veux bien, mais est-ce que la structure du bâtiment n'a pas été abîmée? Donc ça, c'est une autre histoire.
Laurent, habitant de Bangkok, interrogé par Marie Normand.
La Thaïlande, où l'on déplore plusieurs morts et donc de nombreux dégâts.
Oui, la Première Ministre a décrété aussi l'état d'urgence à Bangkok après la catastrophe. Sur place, notre correspondant Valentin Sébron, bonjour.
Bonjour.
Alors, quelle est la situation en ce moment à Bangkok, quelques heures après le séisme?
Écoutez, la tension semble être un petit peu redescendue d'un cran ici à Bangkok après les violentes secousses en début d'après-midi. Mais beaucoup d'habitants sont encore sous le choc et attendent de pouvoir rentrer chez eux. Les rues sont toujours encombrées, la circulation est encore plus difficile que d'ordinaire car les métros aériens et souterrains sont fermés jusqu'à demain. Les autorités thaïlandaises sont en train de recenser l'ampleur des dégâts. Car dans la capitale, une passerelle reliant 2 gratte-ciels s'est par exemple écroulée et un bâtiment de 30 étages en construction s'est complètement effondré. Cet effondrement dont les images tournent en boucle à la télé thaïlandaise a tué au moins 3 personnes. Il ne reste plus qu'une montagne de gravats sur le chantier qui s'est écroulé dans le quartier de Chatuchak au nord de Bangkok. Quelques-uns s'en sont sortis mais on craint que la majorité d'entre eux ne soient piégés à l'intérieur. Les recherches se poursuivent toujours actuellement pour retrouver 81 personnes piégées sous les décombres.
Valentin Sébron, en direct de Bangkok. L'Inde est prête à offrir toute l'assistance possible à la Birmanie et à la Thaïlande. Déclaration du Premier ministre Narendra Modi. L'Union européenne est prête à fournir une aide d'urgence également à la Birmanie et à la Thaïlande après les scènes déchirantes provoquées par le séisme. C'est ce qu'indique aujourd'hui la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.
De nouvelles De nouvelles déclarations du président russe aujourd'hui.
Vladimir Poutine, qui a ordonné à ses troupes en 2022 d'attaquer l'Ukraine, exige toujours sa reddition, le renoncement de ses aspirations à rejoindre l'OTAN et la reconnaissance des territoires ukrainiens que la Russie occupe, des conditions jugées inacceptables par Kiev et ses alliés occidentaux. Cette nuit à Mourmansk, ville stratégique du nord de la Russie, proche de la mer de Barents, entourée de bases militaires navales, le chef de l'État russe est allé jusqu'à proposer une Ukraine transitoirement dirigée par l'ONU avant toute négociation de paix, une nouvelle exigence russe. Anissa El-Jabri.
Vladimir Poutine se sent en position de force, il le répète souvent et encore cette nuit, sur toute la ligne de front, nos forces détiennent l'initiative stratégique, a-t-il déclaré, allant jusqu'à ajouter en faisant référence aux forces ukrainiennes, il y a des raisons de croire que nous les achèverons, fin de citation. Ces propos, le chef de l'État russe les a tenus assis à l'intérieur d'un sous-marin nucléaire, l'Arkhangelsk, il est de la quatrième génération, mis en service en décembre dernier. Les médias russes vendent ses capacités à tirer tout type de missiles en surface et sous l'eau. C'est entouré de son équipage que Vladimir Poutine a donc abattu une nouvelle carte. Il veut une administration transitoire pour l'Ukraine sous l'égide de l'ONU et cela avant toute négociation sur un accord de paix. Le président russe ne mentionne jamais Volodymyr Zelensky qu'il ne considère pas comme un homologue. Les autorités russes, elles, usent toujours de ce vocabulaire choisi pour être méprisant et rabaissant le régime de Kiev. La proposition d'une Ukraine administrée par l'ONU est nouvelle, mais le fond reste le même. Dans la liste de ses exigences, le Kremlin veut le départ du président ukrainien. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
L'armée israélienne annonce bombarder actuellement le sud du Liban et ainsi que la banlieue sud de Beyrouth. Une riposte israélienne après les tirs de roquettes depuis le Liban vers Israël, alors qu'une trêve fragile est en vigueur depuis le 27 novembre. C'est la deuxième fois depuis le début du cessez-le-feu qui a mis fin à deux mois de guerre entre l'armée israélienne et le Hezbollah que des roquettes sont tirées depuis le Liban vers Israël. La précédente remontait au 22 mars. Le Hezbollah affirme de son côté ne pas être à l'origine des tirs de ce matin. Le Programme alimentaire mondial de l'ONU annonce une chute de 40% de ses financements pour 2025, évoquant une crise sans précédent, alors que 58 millions de personnes risquent de perdre une aide vitale. Le PAM avait déjà prévenu qu'il ne lui restait plus que 2 semaines d'aide alimentaire à Gaza et que la faim menaçait de nouveau depuis la reprise des opérations militaires israéliennes dans le territoire palestinien.
La révision du passé culturel aux États-Unis, véritable guerre idéologique lancée par Donald Trump.
Pour lutter contre un endoctrinement idéologique présumé de certains musées, le président a signé jeudi un texte pour reprendre le contrôle de certains d'entre eux et présenter l'histoire américaine sous un jour moins sombre. Dans le viseur du président en particulier, les musées Smithsonian de Washington, véritable institution gratuite et principale attraction touristique de la capitale, Pierre-Olivier.
Oui, les Américains méritent des musées qui enseignent, pas qui endoctrinent. Dans son décret, Donald Trump ne mâche pas ses mots. Pour lui, les musées Smithsonian ne remplissent plus leur mission première. Ils seraient devenus des outils de propagande, loin, très loin de leur fonction éducative. Véritable institution, les Smithsonian regroupent une vingtaine de musées, dont un d'histoire naturelle et un consacré à la culture afro-américaine, le tout gratuitement financé par des fonds fédéraux. Et c'est ce financement public qui offre aujourd'hui à Donald Trump un levier pour changer de cap. Si le décret reste assez vague, plusieurs pistes se dessinent, comme par exemple une nouvelle écriture de l'histoire afro-américaine, avec moins d'accent mis sur l'esclavage et un récit, je cite, plus positif. Pour mener à bien cette mission, le vice-président J.D. Vance, membre du conseil des Smithsonian, a été chargé d'identifier et de supprimer toute idéologie inappropriée dans les expositions et les programmes. Concrètement, cela pourrait signifier la révision de certains panneaux explicatifs. Après les Smithsonian, d'autres institutions pourraient suivre avec toujours, Olivier, un même objectif, présenter au monde une vision idéalisée de l'Amérique.
Pierre-Olivier du service international de RFI. À Londres, la commission d'enquête qui doit faire la lumière sur le naufrage meurtrier du 24 novembre 2021 a pris fin. Au moins 27 personnes avaient trouvé la mort à quelques kilomètres des côtes britanniques. C'est le naufrage le plus meurtrier qui a eu lieu dans la Manche alors que les secours avaient été alertés. Parmi les personnes auditionnées, l'un des deux seuls rescapés du naufrage, les gardes-côtes anglais ou encore les familles de celles et ceux qui ont disparu. Après un mois d'audience, deux visions se sont affrontées lors de cette dernière séance, celle des victimes et celle des autorités britanniques. Amélie Beaucourt.
C'est à l'avocate des familles des disparus de donner en premier ses conclusions après un mois d'audience.
La tragédie du 24 novembre 2021 était évitable. Elle n'aurait jamais dû avoir lieu. Alors que le nombre de traversées de la Manche augmente de façon exponentielle depuis 2018, les gardes-côtes font l'autruche. Le ministère de l'Intérieur se concentre sur la dissuasion de l'immigration. Plutôt que de mettre les moyens dans le secours, ils échouent donc à remplir leur mission principale, protéger les vies en danger.
Parmi ces griefs, des secouristes fatigués et en sous-effectif, des problèmes de communication avec les Français, l'abandon prématuré des recherches ou encore l'incapacité à utiliser WhatsApp alors que la géolocalisation du bateau y avait pourtant été envoyée. L'avocat du ministère de l'Intérieur, lui, reste sur ses positions.
Si les passagers sont décédés, c'est parce que le bateau fourni par les trafiquants ne tenait pas la route. Si la mission de secours en mer a échoué, c'est d'abord parce que la météo était mauvaise. Ensuite, parce que les Français ont tardé à nous envoyer les informations dont ils disposaient. Mais aucun de nos agents ne peut être tenu responsable de l'échec de cette mission de secours.
Ces audiences marquent la fin de 15 mois d'enquête, une commission à laquelle les autorités françaises ont refusé de participer. C'est la fin d'une ère pour Emmanuel Macron. Le président français perd son plus proche collaborateur.
Oui, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, arrête. Après plusieurs rumeurs de départ, il a annoncé sa démission au président de la République. Il travaillait avec Emmanuel Macron depuis 10 ans. Alexis Kohler part dans le secteur privé. Il est nommé directeur général adjoint de la Société Générale. Emmanuel Moulin, ancien directeur du Trésor, puis directeur de cabinet de Gabriel Attal lorsqu'il était Premier ministre, lui succédera à partir du 14 avril. En France toujours, le Conseil constitutionnel a donc rendu sa décision sur l'avenir politique d'un élu de Mayotte. Les sages valident l'inéligibilité avec exécution provisoire de cet élu municipal. Bonjour Victorien Villaume.
Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous.
Alors si on en parle, c'est que cette décision était surveillée comme le lait sur le feu par le Rassemblement National, mais finalement elle n'aura aucun impact sur Marine Le Pen.
C'est ça, le Conseil constitutionnel l'affirme, rendre inéligible immédiatement un élu, même sans attendre le résultat d'un appel, est conforme à la Constitution. Mais en effet, ça ne concerne pas Marine Le Pen, puisque dans leur décision, les sages se contentent de répondre strictement à la question posée qui concernait uniquement le cas des élus locaux. Et vous le savez, la chef de file du RN est une élue nationale. Ce dénouement, c'était celui auquel s'attendaient les proches de Marine Le Pen. Et les regards sont maintenant tournés vers lundi, Olivier. C'est à cette date que Marine Le Pen connaîtra sa condamnation dans l'affaire des assistants parlementaires. Le parquet requiert contre elle une peine d'inéligibilité avec la fameuse exécution provisoire. Elle pourrait donc être empêchée de se présenter à la présidentielle de 2027. On va attendre lundi, il n'y a rien d'autre à faire, balaye ce matin un député du parti d'extrême droite.
Merci Victorien. Grandir en zone de guerre, c'est vivre avec un corps qui a intégré la peur et le traumatisme. Ainsi s'expriment Sama Hawakim et Samar Haddad King, les deux artistes palestiniennes. Leur pièce Losing It, créée en 2021, vient d'être présentée au Théâtre de la Bastille.
Samar Haddad King, installé derrière sa console, nous immerge dans un espace sonore où les sons urbains se mêlent aux percussions et aux bruits de la guerre. Une cacophonie où les bombes répondent aux feux d'artifice, le son des hélicos fait place aux klaxons et aux éclats de voix. Un fil traverse le plateau, un élastique vert tendu en diagonale qui coupe l'espace. Checkpoint, frontière, Sama Hawakim compose sa danse autour de ce fil. Le corps s'y heurte, s'y suspend, s'y accroche, à la recherche d'un équilibre fragile. Un travail qui prend sa source dans la guerre entre Israël et le Liban en 2006. La danseuse, alors adolescente, vivait à Beyrouth. Elle essaye ensuite de se souvenir des sons, avions, bombes, sirènes et de l'effet produit sur son corps, la peur, la panique. Et le mouvement est créé à partir de cette matière. Mais le fracas de la guerre n'est jamais seul. Il s'attaque à la vie qui jaillit ainsi entre les explosions. Une chanson fuse, une prière, celle que récite la grand-mère de Sama tous les soirs. Avec Losing It, les deux artistes palestiniennes signent une pièce percutante sur la vie comme acte de résistance en temps de guerre.
Oh, yeah. Un sujet de Muriel Mahalouf, Lozinit se joue donc ce soir et demain en région parisienne au Théâtre 95 avant une grande tournée en France.
Merci Olivier Sherman, à tout à l'heure. Il est 13h15 ici à Paris et on va parler de l'actualité sportive. Avec vous Christophe Diremzian, bonjour.
Bonjour Anne.
Et du football d'abord, la quinzaine internationale est terminée, retour au feuilleton des championnats nationaux. Notamment la Ligue 1 où le Paris Saint-Germain pourrait mettre fin au faux suspense en étant sacré dès demain.
Oui, alors c'est pas le feuilleton le plus palpitant de la scène européenne. La fin est déjà divulgachée, comme on dit en bon français. Le PSG va décrocher son 4e titre d'affilée, le 13e au total. Les conditions pour plier l'affaire dès demain soir doivent être simultanées et sont quand même assez compliquées. Battre Saint-Etienne, que Marseille soit battu à domicile par Reims et que le derby de la Côte d'Azur entre Monaco et Nice se solde par un match nul. En attendant de savoir si ce scénario a une petite chance de devenir réalité, ce sont deux candidats à une place en Ligue des Champions qui vont lancer cette 27e journée ce soir. Strasbourg accueille Lyon, les Alsaciens 7e avec seulement 2 points de retard sur un OL en forme. 4 victoires sur les 5 derniers matchs de championnat, un quart de finale de Ligue Europa en vue. La méthode Paulo Fonseca fonctionne. Privé de Montouche jusqu'en novembre, on le sait, pour avoir menacé physiquement un arbitre, l'entraîneur portugais reste évidemment à la manœuvre pour préparer ce ses joueurs à l'adversité strasbourgeoise.
Je suis confiant, j'ai beaucoup de confiance à tous les joueurs de l'équipe. Les joueurs sont prêts, tous les joueurs sont prêts pour jouer. Je m'attends que nous continuons à avoir cette mentalité qu'on a, jusqu'à maintenant. Nous savons que c'est un match difficile, très difficile, mais aussi un match important pour nous. L'entraîneur a fait un magnifique travail avec des jeunes joueurs et une équipe que j'aime beaucoup de voir. Ça sera difficile pour nous, mais je crois aussi que ça sera difficile pour Strasbourg.
Paulo Fonseca, mon Strasbourg-Lyon au stade de la Méno, coup d'envoi 19h45, temps universel.
En Italie, le nouvel entraîneur de la Juventus Turin a pris ses fonctions.
Igor Tudor, passé entre autres par Marseille, a prononcé ses premiers mots devant la presse hier, nommé en remplacement de Thiago Motta. Limogé après une mauvaise série de résultats qui a fait stagner la vieille dame à une décevante 5e place de Serie A, le technicien croate se réjouit de revenir dans un club qu'il connaît bien, puisqu'il en a porté les couleurs entre 1998 et 2007.
L'émotion est là, évidemment, pas seulement parce que c'est la Juve et pour ce qu'elle représente, mais parce que c'est un club que tout le monde voudrait entraîner. J'ai cette envie de travailler, de bien faire, de réussir à atteindre les objectifs que nous connaissons tous. Je crois vraiment cette équipe. Je pense qu'il y a de très bons joueurs. Il va falloir travailler sur tout, apporter de la légèreté tout en donnant de l'agressivité mentale et de la motivation. D'un point de vue tactique aussi, il y a des choses à faire, mais elles ne doivent pas être trop nombreuses. L'essentiel est de ne rien négliger, mais d'y aller fort, vite, tout en étant conscient de ce que nous représentons.
Però andare forte, consapevoli quello che rappresentiamo.
Le plan de marche d'Igor Tudor pour la Juve, premier match pour lui demain face au Génois de Patrick Vira.
Le tennis maintenant avec les demi-finales masculines du tournoi de Miami.
Et on retrouve l'inusable Novak Djokovic, 37 ans et 10 mois, le joueur le plus âgé à accéder au dernier carré d'un Masters 1000. Le Serbe va affronter le Bulgare Grigor Dimitrov. L'autre duel opposera l'Américain Taylor Fritz et le Tchèque Jakub Mensik, tombeur d'Arthur Fils. Et puis chez les dames, la finale demain mettra aux prises la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka et l'Américaine Jessica Pegula qui a mis fin au beau parcours de la jeune Philippine Alexandra Ayala.
Merci Christophe Diremzian. L'actualité sportive est aussi sur internet, rfi.fr. Et nous, tout de suite, on va retrouver notre invité.
RFI. Le monde à midi.
Pour parler de ce séisme qui a secoué ce matin la Birmanie et la Thaïlande, on déplore 3 morts à Bangkok et un hôpital de la capitale birmane annonce une vingtaine de décès. Bonjour Frédéric de Baumy.
Bonjour.
Ancien président de l'association Info Birmanie, vous avez également écrit plusieurs essais et bandes dessinées sur ce pays, parmi lesquels Birmanie, la révolution de printemps, paru aux éditions Sileps. Alors, il n'y a pas encore de bilan officiel en Birmanie. Les chiffres que je viens de donner viennent d'un médecin de l'hôpital général de la capitale. Est-ce que vous pensez que les autorités communiqueront de manière transparente sur ce tremblement de terre ?
Alors ça, vraiment, c'est il faut être prudent. En tout cas, il y a quelque chose qui est à observer, c'est qu'en 2008, un cyclone avait ravagé une large partie du pays. Il y avait eu plus de 130 000 morts, 1 million de déplacés, donc c'était important. Et la junte, à ce moment-là, avait pendant un temps refusé l'aide internationale. Là, l'attitude du chef de l'armée actuel est différente. On l'a vu se rendre dans un hôpital dans la capitale aujourd'hui, et ça signifie quelque chose. Et là, en fait, la situation humanitaire nous ramène à la situation politique, parce que ce chef de l'armée, on parle en fait d'un régime qui bombarde les hôpitaux, qui bombarde les écoles, qui s'en prend donc aux populations civiles, mais qui aussi emprisonne ses opposants, les torture, les pend. Donc le chef de l'armée,
parce que
c'est
la
pas quelqu'un...
Parce que la junte exerce un pouvoir extrêmement autoritaire et que le pays se trouve dans une situation de guerre civile. Aujourd'hui, vous nous l'avez dit, le chef de la junte s'est déplacé et il a aussi lancé un appel à l'aide internationale. Est-ce que ça nous donne donc, selon vous, des indications sur l'ampleur de la catastrophe ?
Ça nous donne surtout des implications, et là j'en reviens au côté politique, sur l'intérêt pour l'armée birmane, pour le chef de l'armée birmane, de profiter de cette crise. C'est là que par rapport à la gestion de la crise, il va falloir être très prudent sur ce qu'ils font. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que en fait on a donc un régime, vous avez parlé de guerre civile, mais c'est pas la guerre civile qui amène la dictature en fait. C'est qu'il y a une résistance armée assez efficace contre une dictature militaire qui est l'un des pires régimes de la planète. Et en fait, on est dans une situation où ce régime militaire en place ne contrôle plus qu'un cinquième du territoire du pays, a promis encore hier la tenue d'élections auxquelles personne ne croit en fait. C'est un schéma récurrent de cette junte de promettre des élections, d'avoir des faux gestes comme ça d'ouverture, mais ils ont tellement usé en fait ce stratagème jusqu'à la corde que même les pays de la région là n'y prêtent pas une grande attention.
Donc il va falloir surveiller la réaction de la junte. Les rebelles sont actifs dans plusieurs régions du pays aujourd'hui. Il y a des affrontements, notamment dans la zone où se trouve l'épicentre du séisme. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence, selon vous, sur l'organisation des secours ?
C'est évidemment très compliqué. En fait, le régime, pour peu qu'on puisse compter sur lui, ne peut pas agir sur une large partie du territoire. Mais voilà, on a un chef de l'armée qui va essayer de se montrer comme un dirigeant responsable pour essayer en fait d'améliorer son image.
Et donc, qui avait décidé récemment, par exemple, de couper les livraisons de nourriture et de médicaments dans certaines zones, dans des zones rebelles, là où il y avait des combats. Est-ce qu'il y a quand même sur place des centres de santé qui sont en état de marche et à même de répondre au type d'urgence que peut provoquer le séisme qu'on observe aujourd'hui ?
On est dans une situation en fait qui est très difficile, puisque en fait on le sait bien en fait quand des phénomènes naturels comme un séisme se produisent, ce qui est important c'est la solidité des infrastructures du pays. En Birmanie, il y a une insuffisance des services de santé, il y a une faiblesse générale des infrastructures qui rend les populations évidemment plus vulnérables encore à ce qu'il vient de se passer. On a une situation humanitaire de toute façon qui est dégradée. Hein. On a une majorité de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, et avec les coupures décidées par le président des États-Unis Trump récemment, le programme alimentaire mondial n'est plus en capacité de secourir autant, d'aider autant qu'il le faudrait des gens qui ont des problèmes d'accès à la nourriture. Quoi. Donc on est dans une situation déjà très dégradée. Le séisme s'y rajoute et un dirigeant de l'armée en perte de vitesse va essayer de capitaliser là-dessus pour se montrer responsable. Mais voilà, c'est quand même un contexte d'ensemble qui n'est pas très sain.
Est-ce qu'il pourrait y avoir, selon vous, une trêve entre les rebelles et les autorités et la junte dans certaines zones, dans les zones les plus touchées, pour pouvoir y faire parvenir une aide et des secours ?
Là, j'ai aucune réponse à cette question là pour l'heure. Hein. Évidemment, on parle d'un événement qui s'est produit il y a quelques heures seulement, ce séisme. Je ne sais pas. Mais évidemment, il faudra regarder tout ça avec attention, puisque, encore une fois, on a un régime qui se moque totalement de sa population. Le fonctionnement de ce régime, c'est s'il faut tuer tout le monde pour garder le pouvoir, on tuera tout le monde. Donc, s'ils font des gestes, s'ils font des compromis, c'est pour en tirer avantage. Et donc, Donc, même si c'est bienvenu à certains moments, dans certaines circonstances, parce que les gens ont besoin d'aide, il faudra absolument pas perdre de vue
qu'il y a un intérêt derrière. Est-ce qu'il pourrait y en avoir un sur la scène internationale aussi? On voit par exemple là que l'Inde et l'Union européenne se disent prêtes à fournir une aide.
Oui, bien sûr. En fait, l'Inde a proposé en fait une aide tout à fait rapidement. Oui, parce que sur la scène internationale aussi, en fait, l'image de ce régime est dégradée. Bon, elle tient plus une grande partie du territoire, même si elle tient encore des villes essentielles. Et puis, la Chine, par exemple, le soutien de la Chine au régime militaire birman varie en fonction de ses intérêts. En fait, pour la Chine, il y a une route commerciale importante, il y a un accès à la mer, la Birmanie c'est important pour la Chine. Donc la Chine soutient ce régime, mais ne l'aime pas pour autant, c'est vraiment du pur pragmatisme, et donc on est sur des choses où par plusieurs années en arrière, Pékin soutenait les militaires birmans, toujours sans les aimer, mais de manière plus résolue.
Donc là aussi, quelque chose qui pourrait changer. Je vous remercie Frédéric de Beaumy d'avoir été en ligne avec nous, et je rappelle que vous avez présidé l'association Info Birmanie et consacré de nombreux livres à ce pays. Reportage en Chine, justement, on en parlait à l'instant. La Chine où les jeunes ont toujours beaucoup de mal à trouver du travail, même s'ils sont diplômés. Le taux de chômage est moins fort qu'il y a quelques mois, mais les jeunes qui sortent de la fac, et qui devraient être 12 millions cette année, ont très peu de perspectives. Notre correspondante Cléa Broderst a recueilli leur témoignage lors d'une foire à l'emploi à Pékin.
Organisée dans un centre commercial, cette foire réunit une centaine d'entreprises. Ici, des milliers de jeunes chinois, CV en main, parcourt les différentes allées. Yue, jeune diplômé de 22 ans, estime qu'il est bien plus difficile pour les jeunes de trouver un emploi aujourd'hui que pour les générations précédentes.
Nous sommes nombreux et le coût de la main-d'œuvre a diminué. Cela, combiné au nombre limité de postes, rend la tâche plus difficile pour les personnes ayant un niveau d'éducation similaire au mien. Et puis le report de l'âge de la retraite a un impact sur l'emploi. Il n'y a pas beaucoup de place et tous les postes sont déjà occupés. La plupart des postes disponibles sont dans le domaine de la vente, ce qui ne correspond pas vraiment à ce que je recherche. Mon autre préoccupation, c'est de savoir si une entreprise est digne de confiance ou non.
Li, une jeune mère de jumeaux, espère pouvoir revenir sur le marché du travail après un long congé maternité.
Je travaillais dans le domaine juridique, mais il n'y avait personne pour s'occuper de mes jumeaux à la maison, alors j'ai dû démissionner. Aujourd'hui, les employeurs s'intéressent d'abord à l'âge. Les premières conversations se passent bien, mais dès qu'ils entendent mon âge, ça devient un peu gênant.
Et elle trouve que c'est un énorme défi à relever.
Je le comprends très bien du point de vue de l'entreprise, c'est logique. Mais du point de vue d'une femme, c'est vraiment difficile. Les femmes apportent toujours une contribution silencieuse, qu'il s'agisse des tâches ménagères invisibles ou de la prise en charge des enfants. Et bien sûr, les entreprises vous demanderont « Que ferez-vous de vos enfants ?» Si vous avez un enfant, ils vous demanderont si vous avez l'intention d'en avoir un autre. Et si vous en avez deux, ils supposent que vous n'en aurez probablement pas d'autre.
Chen est allé à plusieurs foires à l'emploi sans succès. Ce jeune homme de 23 ans espère que le gouvernement va mettre les bouchées doubles pour aider la jeune génération.
Je suis déçu, très découragé. Le taux d'emploi des jeunes diplômés est assez bas en ce moment et la pression est intense. Si vous ne vous préparez pas aux études supérieures, vous vous préparez aux examens de la fonction publique qui sont encore plus stressants. Pour ceux qui essaient de trouver un emploi directement, c'est encore plus difficile. J'espère que le gouvernement ou les écoles pourront organiser davantage de salons de l'emploi, peut-être plus fréquemment dans les écoles ou dans la société. S'il pouvait y avoir 2 ou 3 grands salons de l'emploi par mois, cela nous donnerait plus de chances de trouver du travail.
Le chômage des jeunes en Chine a de lourdes conséquences, à la fois sur l'économie et sur la société. Et face à ces défis, Pékin reconnaît l'urgence de réformer le marché de l'emploi en misant sur plus d'opportunités de travail, des aides financières telles que le remboursement d'assurance chômage ou la baisse d'impôts, et enfin un soutien à l'entrepreneuriat. Cléa Broderst, Chosian Yuan, Pékin, RFI.
À quoi ça ressemble quand des chercheurs trouvent ? À moi. Grâce à la recherche, je vis avec le VIH. Mais je dois vivre avec un traitement à vie, une santé plus fragile, des discriminations. On vit, oui, mais on n'est pas guéri. Grâce à la recherche, on peut vivre avec le VIH. En aidant la recherche, on pourra vivre sans. Faites un don à SIDAction sur sidaction.org.
Les dessous de l'Infox, Sophie Malibaud.
Les réseaux sociaux qui ont permis de grandes mobilisations, un accès facilité à l'information, sont devenus de plus en plus toxiques. Avec le chercheur Julien Nocetti du centre Géode de géopolitique de la datasphère, nous évoquons l'évolution des différentes plateformes numériques.
Les dessous de l'Infox avec Sophie Malibaud, tout à l'heure à partir de 17h30 TU sur RFI.